Ben, on va commencer par présenter chacun. Alors, moi, c'est Yuka. Je vis à la ZAD depuis un peu plus de 4 ans. Et avant, j'étais. Bon, on a une magnifique carte. J'étais plutôt dans cet endroit-là, par là. Ce qui s'appelait anciennement la zone non autorisée. Qui s'appelle maintenant les loups qui poussent. Et maintenant, je vis à la Neue Verte, ici, depuis 8 mois. Donc, extrême est de la ZAD. Et voilà, moi, je j'ai pas de métier particulier. Enfin, je m'occupe d'arbres fruitiers. Après, voilà, il y a plein de... La vie est riche, mais après, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de projet particulier, j'ai pas déposé de fiches en mon nom. Voilà, quoi. Et la Neue Verte, c'est pareil, je peux l'écrire.
Et moi, c'est Gillier. Je parasite aussi beaucoup la Neue Verte. Je suis sur la ZAD depuis 4 ans aussi, en fait, 4 ans et demi. J'ai atterri dans les bourgs. J'ai décidé de. J'habite avec Anne-Claire et puis on a deux enfants qui sont en bas âge. Bon, d'abord, on a habité dans le bourg de la Saclay. Après, maintenant, on a un HLM à Notre-Dame-des-Landes. Et au début, moi, j'habitais à avoir dit. Enfin, j'habitais pas, mais je suis allé voir. Il y a un collectif qui m'a proposé de faire partie des leurs, quoi. Et c'est la Wardine, c'est un lieu, c'est une ancienne ferme, mais qui n'a pas du tout d'activité, très peu d'activité agricole, qui fait beaucoup plutôt énormément d'accueil, d'abord de concerts, et puis ensuite c'est un gros lieu de réunion et d'organisation de stockage de matériel. Vous m'entendez bien ou pas quand je parle ?
Très bien.
Et du coup, voilà, pendant 3 ans et demi, j'étais là-bas. Et j'ai même déclaré une activité de maraîchage là-bas. Avec un soutien mitigé là-bas sur place, une activité de maraîchage. Voilà, j'ai décidé de faire un métier de maraîcher tout en étant participant à toutes les activités de la ZAD. Et après quelques péripéties, je suis parti faire la même chose à la Neue Verte, où je suis allé me poser en voisin du collectif qui m'a lui complètement soutenu dans cette arrivée-là. Et puis voilà, du coup, depuis, je fais du maraîchage. Et je participe à tout ce que je peux, notamment de la Neue Verte. Que... Voilà. Et puis, du coup, merci de nous avoir invités. En fait, on ne vient pas complètement par hasard ici, parce qu'on a plein de copains, copines, avec qui... moi, j'ai participé à des luttes, et on a reçu beaucoup de soutien aussi à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, mais on se retrouve aussi sur d'autres... D'autres champs de bataille, quoi. Et puis moi, ça m'a toujours inspiré ce qui se passe au Guingois, à Cussac, la tenue du geste maintenant, là. J'avais envie de faire venir des copains, et du coup, c'était aussi un prétexte pour venir. Merci, du coup. Et puis voilà, on a beaucoup à cœur de décrire ce qu'on vit. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est.
Ouais, c'est difficile. On sait que ce qui est communiqué ou ce qui est reçu loin de la ZAD, c'est pas forcément parlant. C'est difficile maintenant à expliquer depuis l'abandon. Les messages sont chaotiques. Il peut y avoir des. Enfin, du coup, on pense que c'est bien de donner des clés de compréhension, quoi. Voilà, mieux comprendre ce qui se passe sur place et montrer que la vie continue là-bas, en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est déjà... C'est la lutte qui a permis de construire une espèce de société un peu insolite, quoi. Et maintenant, on essaye de préserver ça, alors que l'État voudrait nous détruire.
Du coup, on va essayer d'être. On s'est donné une demi-heure en gros pour vous présenter Mais on commence que maintenant la demi-heure, parce que là on
est prêt. Tout à fait. Surtout que j'ai quand même, moi, bouffé pas mal de tables de début, mais bon.
Et du coup, bon, voilà, on voulait vous faire un peu, on va brosser un peu ce qui se passe. On peut commencer par vous donner un peu un historique de ce qui s'est passé depuis le 17 janvier. Le gouvernement annonce officiellement qu'il abandonne. Et à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on peut vous faire un petit peu le récit, un peu factuel de ce qu'on a vécu, un peu analysé aussi à notre manière. Du coup, ce qui s'est passé, nous, le 17 janvier, quand on a reçu cette nouvelle-là, on a commencé par faire la fête. Et puis, il y a une association, la CIPA, qui est une association de 2000-3000 adhérents, avec une association citoyenne très ancienne, enfin qui a 10 ans d'existence. Où il y a Julien Durand, notamment, qui a été porte-parole il y a deux. C'est une association très ancrée localement dans les bourgs autour, mais aussi qui a beaucoup d'adhérents parmi les comités de soutien. Elle a dit, bon, vous abandonnez l'aéroport, nous on fait un geste. On avait prévu de déblayer une route qu'on appelle la route des chicanes, qui était aussi appelée la D281. Cette route, c'était un peu un des symboles de la ZAD. C'était là où il y avait plein de photos de prise. Par contre, vous voyez, c'était une route. Cette route-là, en fait, c'est la route de Renon à Nantes. Et donc, le fait de la bloquer, c'était hyper stratégique, en fait. La bloquer, elle n'était pas bloquée, elle était entravée. Il y avait des barricades qui étaient sans cesse reconstruites, mais il y avait aussi des cabanes, des tas de choses. Bon, la CIPA est suivie par Copain, suivie par partie des occupants de la ZAD, dit « Ok, on s'était d'abord mis d'accord avant l'abandon qu'on allait faire une fête de la victoire, ou peut-être une fête de l'abandon. » Enfin, on savait qu'il y avait quelque chose. Donc on avait dit « Si jamais c'est gagné, on la déblaiera après le 10 février, parce qu'on avait prévu une fête le 10 février. » Et puis Julien Durand, il annonce que « Ok, on déblaye la route, et il annonce ça à la CIPA, il organise un gros chantier. » Et donc le lendemain, ou trois jours après la décision d'abandon, et ben en fait, on se retrouve embarqué à déblayer cette route plus vite que prévu. On la déblaye. Et ce qui est resté important pour beaucoup de monde, c'était de faire un geste, dire ouais, cette route-là, on pourra en reparler plus tard. Je vais vite un petit peu. Mais cette route, nous, ça nous semble important que les voisins, les gens qui habitent dans les bourgs, là, qui nous disent tout le temps qu'ils voudraient pouvoir circuler sans avoir peur, sans problème. Eh ben, ils voudraient pouvoir la pratiquer, et du coup la décision c'est de plutôt que ce soit les flics qui viennent et puis qui puissent dire on a rétabli l'état de droit, on dit non, c'est le mouvement qui le fait, parce que en fait on pense que ouais, on peut le faire. Alors ça se passe pas bien. Il y a plein de gens qui habitent au bord de la route. Parmi ces gens, il y a des personnes qui disent, qui tiennent en fait à ce qu'elle reste en partie ce qui a été construit dans cette route-là, ça reste visible. Notamment à un endroit qui s'appelle Lame Attachée, il y avait une construction. Alors, au début, on a dit qu'on la gardait, et puis on décide. Enfin, le on, c'est un peu flou là. J'utilise un on un peu flou. C'est pas le nous quoi. Le on, c'est il y a une espèce de consensus, ou on ne sait pas, mais qui se décide pour la démonter. Ça se fait en fait à forcer les gens qui ne voulaient pas la démonter, on les force à le faire. Et du coup, ils appellent d'ailleurs par contre, on leur dit, on va la reconstruire juste à côté. Et ils la rebaptisent la massacrée, si ça vous l'avez pas compris. Voilà. Alors ça crée beaucoup d'histoires. Et puis la route, on s'emploie à essayer de faire que ça se passe. Les flics, la préfecture, ils voient que c'est notre ligne de faille, c'est un truc de conflit. Ils disent, maintenant c'est nous qui dégageons, on va faire les travaux, etc. La préfecture met la pression, elle dit, je vais le faire s'il y a atteinte à l'ordre public, etc. Et du coup, il y a plein de gens parmi nous qui se mettent la pression pour que ça se passe bien, pour que la route elle soit dégagée. Et il y a des gens, par contre, qui viennent casser la route.
Attends, parce que, dans un premier temps, le mouvement, enfin, le « on », qui est pas un consensus, quoi. Le « on » est un consensus
C'était
de
pas
quelques
bon
personnes.
Ouais.
Mais du coup, après qu'on ait déblayé la route, il fallait la refaire.
Ouais.
Parce que, avec les affrontements, il y avait des chicanes, beaucoup de chicanes. La nature reprenait ses droits sur les côtés. Enfin, c'était... Et du coup, ils ont comblé les trous avec du bitume. Enfin, c'est des travaux qui ont duré un mois. Ouais. Un mois de... En fait, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas vu de flics sur la zone. Et là, ils sont arrivés pour protéger les machines de travaux. Et il y a eu une présence policière pendant un mois d'affilée sur le milieu de la ZAD. Sachant qu'il y avait plein d'habitations de part et d'autre. Et donc ça a fait monter la tension beaucoup.
À tel point qu'il y a des gens qui disent « Bon, on ne supporte plus, on va le montrer, on va symboliquement, on va péter la route des travaux qui ont été faits. »
Le dernier jour.
Le dernier jour des travaux.
Quand les travaux étaient terminés, c'est-à-dire que les flics allaient partir, quoi.
Ouais. Ça pète les plombs, en fait. Il y a d'autres... Enfin, voilà, ça gueule, voilà. Bon. En même temps, on organise la fête du 10 février, la grosse manif, ou manifestation de masse. Il y a 30 000 personnes qui arrivent sur la zone. Et c'est une manifestation, du point de vue de l'objectif, il a réussi. C'est une grosse manifestation, c'est une fête de la victoire. On a mis énormément d'énergie à préparer, à ranger aussi après. Et voilà. Mais ça continue à se disputer. En fait, on fait étalage de nos divisions. Il y a une espèce de off de la manifestation qui a lieu à la massacrée. Et il y aura même... en fait, on ne sait plus si c'est juste avant ou après, mais il y a un mec qui se fait casser la gueule méchamment par des personnes. On ne sait pas encore qui l'a fait, mais il y a une histoire sordide qui arrive. Là, il y a un zadiste qui n'est pas forcément très malin, mais qui se fait casser la gueule emmené dans des coffres. Donc les tensions, elles sont... Ça crée... Voilà, la division que voulait l'État, là, il a réussi à faire monter la sauce, là. C'est parfait. Voilà, déjà, premier truc... on dérape.
Du coup, cette histoire-là, c'est un sujet qui revient constamment dans les milieux militants qui suivent un peu de près la ZAD, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Alors, à côté de ça, là, on est en train de vous parler avant les expulsions, quoi. En fait, du coup, d'un côté, on dégage la route, et puis d'un autre côté, on se dit, bon, il faut que maintenant qu'on a obtenu l'abandon de l'aéroport, on se sent fort, quoi. Et on dit, bon, il faut qu'on arrive en ordre serré, là, pour dire à la préfecture, qui va être notre interlocutrice, ou l'État, on ne sait pas si c'est Hulot qui va être notre interlocutrice, on dit, on fait une délégation qui va représenter toutes les composantes du mouvement qui parleront le même langage. Et pour ça, on a une assemblée qui s'appelle l'Assemblée des usages, qui propose de créer une délégation, et toutes les composantes, je vous ai parlé de la CIPA, l'association citoyenne, là, il y a Copain, les collectifs paysans, et puis d'autres structures, on reviendra un peu dessus, mais chacune envoie un délégué et un supplément, et un suppléant.
Oui, il y en a un pour chaque fois, un pour la CIPA, un pour Copain 44, un pour la DECA, un pour CEPA. Ensuite, c'est les
naturalistes en lutte.
Les naturalistes, il y a des naturalistes en lutte.
Voilà, on vous a mis un dosaire pour, puisqu'on va employer beaucoup des acronymes, quoi. Mais voilà, il y a 6-7 composantes dans cette assemblée des usages qui sont présentées, et y compris les occupants.
Les 3 délégués, du coup, pour le mouvement d'occupation.
Qui, en fait, nous, les occupants, on procède à une espèce d'élection de délégués. On en prend 8, il y en a 3, ou 8 ou 10, je ne sais plus, ou 11. On essaye de trouver une espèce d'équilibre politique à l'intérieur de cette délégation. Et il y en a 3 qui sont chargés d'aller participer à cette délégation avec 3 suppléants. Et c'est des personnalités. Bon, bref, on crée une délégation et l'Assemblée des usages dit ce que cette délégation doit aller dire. Et donc, elle doit porter 4 points à la préfecture. Elle dit, nos revendications, c'est quoi? C'est 1. D'abord, pas d'expulsion. Deuxièmement, gel des terres de toute la ZAD. C'est-à-dire, on veut pas. On veut qu'il y ait une espèce de suspension des attributions de terres, etc., pour pouvoir avoir, pendant 2 ans, pour pouvoir penser le projet à long terme, quoi. Troisièmement,
ça, c'est les 2 trucs de court terme.
Ouais. On demande l'amnistie de toutes les personnes qui ont été inculpées pour des questions de lutte, quoi. Un troisième.
Et puis, et ben, que soit une entité collective issue du mouvement qui gère les terres de la ZAD.
Alors on essaye de porter cette délégation, d'obtenir les rendez-vous, tout ça. Et la préfecture, elle nous répond, comme sur la route, elle a envoyé la police. Là, elle invente un truc, elle invente le comité de pilotage. COPIL. Elle invente ça et elle dit, vous, votre délégation, là, ben, en fait, c'est comme si elle disait, bah oui, les délégations, j'ai bien vu. Alors, bah toi, non, je ne veux pas te voir, toi, non. Et puis, tiens, la Confédération paysanne, là, bah, je vais l'inviter. D'ailleurs, j'invite aussi la coordination rurale, les jeunes paysans, la FNSEA. Donc, vraiment pas des organisations paysannes qui ont défendu. Enfin, la FNSEA, ils étaient contre l'aéroport, mais c'était pas très clair. Les autres, on n'avait jamais vu. Et ils invitent aussi les maires voisins, et ils invitent aussi. Tiens, ils invitent la CIPA. Et puis, ils invitent la DECA. Donc,
la
ils n'invitent pas.
La DECA, et ils n'invitent même pas copains.
Donc, ils invitent la Confédération. Des gens qui nous sont proches, la Confédération paysanne est un peu proche. Mais elle n'est pas dans la délégation, en fait. Copain, c'est pas une émanation de la Confédération paysanne. Il y a des gens de la conf qui sont à Copain. Copain, c'est un groupement d'organisations paysannes qui sont. En fait, la conf en Loire-Atlantique, c'est pas la conf nationale. Il y a une espèce de trucs qui font qu'ils ne sont pas retrouvés en phase. Bon, voilà. Alors, on avait toujours dit que si jamais la préfecture faisait ce coup-là, les associations qui seraient, ou les structures qui seraient invitées, elles déclineraient. Donc la CIPA, c'est dans l'histoire, c'était une grosse victoire. La CIPA a dit, ok, moi j'y vais pas. Je refuse l'invitation au copil. La DECA, ils disent, bah nous on est obligé d'y aller. Parce que on est. Alors, la DECA représente les paysans historiques en lutte, les quatre fermes en lutte, qui ont toujours lutté et à qui on ne peut faire aucun procès de mauvaises intentions, etc. Ils disent, bon, il y en a un qui va y aller puisqu'on ne peut pas aller avoir les infos, etc. Ok.
Et ça a pas trop fait de bruit. Enfin,
c'est le débat, c'était censé être un peu un espion cet assaut dans cette copie. Mais bon, la Confédération paysanne, elle dit on a beaucoup réfléchi, on y va. Et du coup, trahison, quoi. Enfin, ouais. Et ils acceptent du coup de valider l'organisation du copil, enfin voilà, et du coup ça crée. Cette espèce de copil, il y a une première réunion qui a lieu, alors que nous, la délégation, elle essaie d'y aller. La conf dit, je vais essayer de porter vos arguments, etc. On leur dit, mais vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas parler de nous, c'est pas possible. Bon, alors du coup, je sais pas, les copains, ils s'embrouillent tous avec, et puis en même temps, ils essayent de pas se fâcher, parce qu'il y a des élections, je sais pas quand, à la Chambre d'agriculture, et du coup, il faut préserver Enfin voilà, il y a des trucs, la conf pense qu'il faut préserver une représentation institutionnelle. Nous, on n'arrive pas à l'empêcher d'y aller. On trouve pas les mots, on trouve pas les arguments. Ils y vont. Voilà. Et du coup, la préfecture, elle gagne sur ce plan-là. Elle nous neutralise, quoi. Elle invite le copil. Elle crée un moment. Nous, on fait une manif devant qui n'est pas très visible, pas de gros rassemblement. Et voilà. Alors que le 10 février, on avait une énorme manif. Un mois plus tard, devant le copil, on a une toute petite manif devant la préfecture. Voilà. Et la préfète reçoit quand même la délégation, on porte les 4 points, elle dit bon, je peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas d'expulsion. Le gel des terres, c'est pas de ma compétence. L'amnistie, je vois pas ce que je peux faire pour vous, c'est pas mon rôle. L'entité commune, c'est le copil qui va en parler éventuellement. Voilà. Et voilà. Et là du coup on arrive à la fin de la trêve hivernale, c'est le 31 mars qui est passé, ils annoncent leur venue pour. Deuxième semaine d'avril. Quoi. Ils ont reculé un peu avec les rendez-vous de délégation. Ils disent, ouais, qu'est-ce que vous avez à dire? On peut commencer à discuter. Mais voilà.
Ouais, donc on arrive aux expulsions. Alors du coup, ben, comme on s'en doutait un peu, quoi, les travaux sur la D281, c'était pas juste pour protéger les machines et empêcher... c'était surtout pour s'installer, quoi. Pour se mettre en confiance regarder, parce qu'il y a eu, ouais, il y a eu des visites de cabanes aux alentours pendant cette période-là. Et donc, bref, en tout cas, les expulsions, elles ont commencé. Ça, c'est du bleu, quoi, c'est les GM, les gardes mobiles. Et ben, ils se sont mis là, et ils ont fait une ligne infranchissable. Pendant toutes les expulsions, ils ont occupé cette route fermement.
Et du coup, pour la première vague d'expulsion, ils ont démoli tout ce qui était autour de la... Donc plein de lieux. Bon, les croix sont pas forcément tout à fait justes, mais voilà. Et du coup, à la fois, donc ils ont dégagé autour, et puis ça faisait une barrière infranchissable. Vu que le centre de la ZAD est plutôt là, nous, il y a la Noé Verte, il y a le Haut-Fait, il y a quelques lieux par ici, mais pas en nombre pour aller défendre tout ce qui est là, qui correspond au Nous qui pousse, anciennement zone non motorisée. Donc ils ont commencé par détruire ça, et ensuite ils sont restés, petit à petit, ils ont détruit toutes les cabanes d'ici. Et en fait, ici, bon, c'était une zone... on ne sait pas trop, c'était difficile d'y accéder, donc ils ont fait ça assez facilement.
Ça, c'est presque même le premier jour, ils viennent détruire, ils occupent ça et ils rasent large, quoi. Ils rasent, alors ils annonçaient qu'ils allaient venir chercher, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire en fait, et ils disent on va venir chercher 50 ou 40 ou 80 radicaux, en fait là ils viennent tout péter. Sans distinction de qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ou pas, alors qu'ils avaient dit oui, il y a des gens plus que les autres, tout ça, non, voilà. Et là, ils avancent, en fait, on comprend qu'ils viennent tout péter, quoi.
Ouais, ce qu'on se disait un peu, peut-être pour se rassurer, c'était ils veulent juste avoir des images, donc ils vont faire une expulsion sur une cabane pour avoir pour raconter leur histoire, comme quoi ils ont dégagé la ZAD. Mais bon, finalement, ils l'ont vraiment dégagé, enfin, ils ont. Là, la première vague d'expulsion, ils ont détruit au moins la moitié des cabanes quoi, de la zone.
Je vous ai dit que l'avoir mis, c'était là, mais en fait, l'avoir mis, c'était là. Ici, ouais, du coup, ils rasent ça. Ils viennent raser aussi des endroits par là. Enfin, voilà.
Et tout là.
Et tout là. Dedans, ils se plantent un peu, médiatiquement ou symboliquement, ou ils se plantent pas du tout. Ils font les bourrins. Ils détruisent aussi un projet agricole. Bon, qui a l'air d'émouvoir. L'opinion de manière générale, mais sans nom. Du coup, ça ramène du monde quand même. Ou en tout cas, ça fait parler médiatiquement. Cette semaine-là, il y a plein de monde sur la ZAD, quoi. Il y a plein de gens qui arrivent et ça. Enfin voilà. Le mercredi, il y a une grosse mobilisation on appelle sur le camping des Cheveux Blancs où il y a 500 personnes. C'est en pleine semaine, vous voyez, à midi, il y a 500 personnes qui viennent manger. Ces gens-là, ils se font gazer. C'était assez familial, annoncé familial, ils viennent terroriser la mobilisation. Ça n'empêche que nous on pensait qu'ils allaient s'arrêter là, ils reprennent les démolitions qui reprennent dans ce coin-là. Voilà. Mais on a une grosse mobilisation.
En une semaine, hein.
Ouais.
Ils ont fait tout ça.
Ah oui, ils viennent aussi faire une perquisition. Le vendredi soir ils annoncent qu'ils ont arrêté, mais le samedi matin ils viennent faire une perquisition à Warding, où ils viennent. Il y avait une grosse barricade qui s'appelle Lascar qui était là, qui était assez imposante, qui posait l'ambiance quoi. Et bien, ils la contournent, ils arrivent là, ils viennent perquisitionner tout le monde sur les fous. Et puis ils partent. Ils viennent perquisitionner, ils détruisent pas, mais ils viennent dire ok, nous on peut rentrer là comme dans du beurre. On est là déjà.
Des fois, ils passaient là, il y a des lieux comme les fosses noires, les vrais rouges. Ben, ils étaient là, on flippait pourquoi ils les détruisent pas. Ben, ils pourraient en fait. Ils font ce qu'ils veulent et ils l'ont pas fait.
Mais
quoi ça tient.
Bon, ça arrive le week-end, ils ont annoncé la fin des expulsions.
Peut-être on fera les questions à la fin.
Ouais. Et puis là, arrive la mobilisation, c'est le week-end, les gens ils peuvent se rassembler. Quoi.
Voilà, donc les donc samedi, on avait posé une date, on avait dit le week-end qui suivra d'éventuelles expulsions, et ben il y aura une manif à Nantes et une manif à la ZAD. Et donc il y a quand même une forte mobilisation. Samedi, à peu près 10 000 personnes dans les rues de Nantes. Et le dimanche, à peu près autant, à la ZAD. Donc durant cette mobilisation, il y avait alors le Gourbi, c'est à peu près le centre de la ZAD. C'est un lieu qui a été détruit maintes fois, quoi. Et donc c'est un peu symbolique de l'acharnement à reconstruire, quoi. Donc là, c'était Gourbi version 5 ou 6, je ne sais plus, qu'on a amené... Donc il y a plein de gens qui ont porté la charpente. Elle avait été construite à Bellevue, puis amenée à la Wardine, puis elle a fait tout le chemin et elle a été posée au Gourbi.
La charpente était montée et elle a été portée par 200 personnes, bout de bras, sur il y a 1,5 km, quoi.
Voilà, et détruit le soir même.
Alors, monté dans la nuit après qu'il y ait eu des tentatives d'arriver et démoli le matin à 6h. Quoi. Donc ils cassent, ils montrent vraiment leur volonté de casser. Ouais, la manif du samedi n'était pas soutenue par la CIPA et copains, oui. Mais le dimanche, par contre, à l'appel de toutes les organisations, il y a eu une grosse manif. Voilà. Voilà.
Nous, en tant qu'occupants, enfin, on s'est dit, on stressait un peu sur la manif à Nantes, quoi. Aucun appel des autres composantes associatives. Mais bon, il y a quand même eu une grosse mobilisation.
Bon, là, quoi, après cette première semaine d'expulsion, il reste. Il y a une phase où les flics continuent à faire des rondes, mais ils détruisent plus. Et puis, ils ont annoncé qu'ils ne touchaient plus à rien. Et la préfète, entre-temps, elle brandit. Elle dit : bon, vous avez compris ? Vous allez vous régulariser maintenant, ceux qui veulent, là, vous étant une espèce de formulaire.
La main tendue.
La main tendue, ouais.
Communiquer comme ça.
Et elle l'avait déjà sorti une fois avant, mais on l'avait pas trop écouté, en fait. Et là, elle le ressort. Elle dit, moi, j'ai un formulaire qui ressemble à rien.
Concrètement, une fiche
ouais,
avant, à disposition. En fait,
on savait pas de quoi elle parlait.
Ouais.
Elle parlait d'une fiche. Il fallait qu'on écrive un courrier pour se régulariser.
Il n'y avait pas de dialogue de sa part, alors que nous, on essayait avec la délégation.
Et du coup, elle dit, bon, ceux qui veulent, là, allez, envoyez-moi des fiches. Et puis même...
Formulaire vide à remplir. Ouais. Nom du projet.
Et vous serez régularisé. Et du coup, on dit tous, non, on va. Il n'y a personne qui va remplir. Il y a des gens, par contre, ailleurs, la préfecture, la chambre d'agriculture reçoit plein de coups de fil, genre c'est possible de s'installer. Je crois que le vendredi, ils ont reçu 100 coups de fil de gens qui voulaient faire des projets agricoles, etc., que nous, on ne connaît pas. Et puis nous, à côté de ça, on dit non, pas question, c'est un piège. Nous, ce qu'on veut, c'est une convention collective. On veut une COP globale, une convention d'occupation du reste du. Voilà. Il y a plein de gens parmi le mouvement qui disent c'est ça qu'on veut. Et en fait, c'était un des 4 points qu'on avait décidé, la délégation. Donc on essaye de continuer à le tenir. Et on refuse, on organise des week-ends de rassemblement, un peu moins sur l'habitat, on essaye de reconstruire. Il y a des manifs de repotage. De repotager dans la zone de nous, là, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a les flics qui continuent à être en ronde.
Qui sont souvent à ce carrefour-là, le carrefour des arrières, ouais. À faire des contrôles, à nous empêcher de nous réunir quand même, quoi. Parce que du coup, faire les trajets pour aller au lieu de réunion,
ouais, c'est hyper compliqué.
C'est difficile de circuler. Ils coursent les gens dans les champs qui essayent de passer à pied.
Et ils annoncent qu'ils vont faire une nouvelle vague d'expulsion. Ils disent, ça va se passer. On commence à avoir des dates qui tombent. Alors, on essaye d'avoir ça auprès des journalistes, on ne sait pas. Et ils disent, on va venir. Et puis, il faut régulariser. Et nous, on ne veut pas. Alors, jusqu'à un moment où il y a une AG des habitants qui dit, on fait en AG des habitants. On en reparlera de cette AG-là. Mais on dit, on va remplir des fiches qui vont être toutes liées les unes aux autres et qui vont faire ce qu'on veut, c'est-à-dire proposer une COP globale. Mais en fait, sous couvert de répondre à sa fiche, on va essayer de faire une espèce de compilation de tous ces projets en montrant les interconnexions de ces trucs-là. Et puis on fait une carte, et puis on fait des schémas un peu sophistiqués. On bosse énormément pour ceux qui ont envie de faire ça. En fait, il y a des gens qui se lancent là-dedans. Tout le monde n'est pas d'accord.
Et oui, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis il y en a qui passent des nuits blanches à remplir des fiches pour essayer de raconter des petites histoires pour chacun des lieux.
On s'appuie sur des projets réels. Moi, je suis maraîcher, par exemple. Mmh. Donc je présente bien, ça rajoute... j'ai un projet agricole comme ils ont l'air de le vouloir, donc on le met vachement en avant. Il y a d'autres projets comme ça.
Et ça perpétue des divisions quoi, qui s'approfondissent un peu avec ça, j'ai l'impression, parce que il y a des gens qui sont consacrés à du travail bureautique quoi. Et du coup, il y a un fossé avec ceux que ça donne des boutons, qui sont quand même assez nombreux à la ZAD. Et du coup, il y a un peu des groupes de travail des fiches et d'autres qui font autre chose.
Ouais. Qui sont pas fans de cette idée. N'empêche qu'on dépose ce truc-là, on arrive à, on dépose le vendredi. Ça, on pense couvrir quasiment la totalité de ce qu'on, de ce qui reste debout sur la ZAD. Y a un groupe qui dit nous on veut pas signer les fiches. Et en fait, la première vague, la seconde vague d'expulsion voilà. commence.
Ouais.
Là-dessus, c'est-à-dire que ils viennent où ?
Donc là, alors oui, ils viennent. En tout cas, oui, c'est surtout là. C'est en fait, ils sont occupés de l'est. Et maintenant, ils s'occupent de cette partie-là.
La forêt de Roanne, d'abord.
Donc là, la barricade de Lascar. Donc des gros affrontements autour de cette route. Et la forêt de Roanne.
Dans lequel il y a plein de cabanes.
Ouais,
6.
La châtaigne.
La châtaigne qui est
emblématique, quoi.
Assez connue, quoi.
Celui-là, il est détruit à la fin de la période. Mais puis, il y a quelques cabanes qui sont détruites.
Plus deux maisons occupées, ici et là. Et puis aussi des cabanes qui sont ici à la Tarte, Préfalie. Enfin, c'est à peu près par là. Et puis la Frosière. Voilà. Tout ça, c'est des lieux qui avaient annoncé qu'ils ne voulaient pas participer à ce truc des fiches. Et du coup, démonstration de... Ils tentent aussi la carte de... Genre, et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et la préfecture répond, elle vient tout péter, quoi.
En fait, on a fait le tri nous-mêmes, quoi. Avec ces fiches, on a trié les lieux. Ouais. Les lieux qui étaient couverts par des fiches, on avait qui n'étaient pas. Mmh. Et la préfecture le savait très bien, quoi. Et du coup, il y en a même qui se posaient la question... De mettre contre leur gré, quoi, de mettre les gens dans des fiches contre leur gré pour pas qu'ils se fassent expulser. Mais bon.
Et puis, voilà, la deuxième vague d'expulsion, c'est un peu chelou, il y a beaucoup moins de monde en mobilisation. Il y a plein de gens qui disent mais pourquoi vous avez pas signé les fiches ? Alors que, enfin voilà, nous on ne pense pas que c'est la bonne ou la mauvaise solution, c'est juste, c'est un chantage total. Et puis là, division énorme au sein de la ZAD, les gens ils sont prêts à se triper, quoi. Ça transparaît aussi dans la communication extérieure de la ZAD, quoi. Sur le site ZAD Nadir, sur toutes ces choses-là, il y a des groupes qui sont accusés de trahison, voilà, le CNBO par exemple. Donc c'est vraiment pas fameux, il y a beaucoup moins de monde, et la fin des expulsions. C'est un peu... Il n'y a pas grand monde. En fait, il y a toujours 1500 flics. C'est très étiré dans le secteur. On n'est pas nombreux en face, que ce soit là ou là-bas. Enfin, on est les occupants. Il y a des gens même qui restent chez eux, tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que ça se termine. Et il y a Maxime qui perd sa main, qui se fait arracher la main par une grenade.
Ouais.
Voilà.
C'était le dernier jour de déblayage de... Parce que non seulement ils détruisent les cabanes, et ensuite ils récupèrent tous les matériaux pour pas qu'on reconstruise. Donc ça finit par le déblayage de la châtaigne et la main arrachée.
Voilà, donc ça c'est un peu la fin de l'histoire qu'on a vous raconté là, dans les faits. Là. En tout cas, c'est ça, quoi. C'est une défaite. Quoi. C'est fait, on s'est pris une raclée sur le terrain.
Ouais. Et puis donc quand même une surveillance accrue, quoi. Alors le discours des flics, quoi, quand on avait l'occasion de leur parler, quoi, c'était on est là pour votre sécurité. Merveilleux. Et du coup ils ont et du coup pour nous surveiller aussi, donc beaucoup de drones, des drones. Bon, tu t'entends un bruit d'essaim d'abeilles, tu dis oh, y a un essaim, hop, tu lèves la tête, bam, t'es une photo, quoi. Des hélicoptères, des bruits d'hélicoptères permanents, quoi. C'était peut-être un des trucs les plus durs pour ceux qui vivaient, qui dormaient dans le centre, près des lieux d'affrontement, quoi. C'était d'entendre l'hélicoptère toute la nuit, au petit matin. Et puis, voilà.
Il y a une présence effective de 1500 flics sur le terrain, ils sont 2500 mobilisés. Ça coûte hyper cher. La première semaine, elle a au moins coûté 5 millions d'euros. On a arrêté de chiffrer après. On imaginait que c'était. Enfin, on avait chiffré environ 300 000 euros le coût journalier de l'opération.
Il y a des litres et des litres de gaz lacrymogène déversés dans les champs, sur les cultures. 11 000 cartouches de grenades tirées en une semaine. Et entre 300 blessés, quoi.
Voilà, quoi. Bon.
Donc l'historique.
C'est ça. Bon, le truc, ils ont. Ouais, le nombre de cabanes, c'est 80% des cabanes qui sont détruites, tout ça. Bon, en fait.
Ils ont laissé les lieux en dur, tout ce qui était le bâti.
Et quelques cabanes. Voilà, il y a une carte accessible sur Zamnadir qui montre un peu l'état des destructions. Alors, bon, voilà, on est défait, mais quand même, en fait, à côté de ça, ils n'ont pas cassé. On continue à être tous sur place, en fait, quasiment. Alors, il y a des gens qui veulent partir et tout, il y a des tensions, on vous l'a dit, mais n'empêche que il y a tout un tas d'outils que l'AZAD avait créés, de façon de s'organiser politiquement, qui perdurent. Quoi. Et ça, on voulait vous le décrire un peu. On a fait une espèce de schéma avec nous d'autres. Pour communiquer, pour discuter, pour prendre des décisions, on a des tas d'outils. Les occupants, je vous disais, on a un site internet, vous avez à dire. Il y avait la CIPA qui avait son blog aussi. Mais il y a aussi une radio, Radio Klaxon, qu'on peut écouter en streaming. Nous, on a un journal interne qui s'appelle le Z News. Voilà, on a des tas de petites structures. On avait un cycle des 12 pour régler les conflits. En fait, ça, depuis que Alix, le gars sur la route, il s'est fait défoncer, on n'arrive plus à utiliser cette espèce d'organe de gestion des conflits.
C'était des 12 personnes tirées au sort dans des lieux pour de médiation des conflits, quoi. Mais ouais, avec le climat.
Là, on n'arrive plus à se parler. Par contre, on arrive quand même à tenir des réunions des occupants et des AG des occupants. La réunion des occupants et l'AG des occupants, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le CMDO qui a décidé qu'il ne pouvait pas participer au
comité pour occupants. Le maintien des occupations.
Mais on arrive encore les occupants à se parler au sein de l'AG qui est moins régulière. La réunion des habitants, des occupants, du coup, se met à parler plus de choses du quotidien, de gestion de matériel, et l'AG essaye de parler plus de politique.
C'est très vrai.
Donc ça, c'est des outils qu'on a entre Zadiens. Et puis, avec toutes les autres organisations, là, la CIPA, Copain, la DECA, CEPA, on avait depuis des années l'habitude de se retrouver dans une AG du mouvement, le premier mardi de chaque mois. Voilà, j'ai mis toutes les organisations qui participent à l'AG du mouvement, qui parlent de stratégie politique, quoi, pas mal. Et puis, comme il y avait des tensions entre tous ces groupes-là, qu'il n'y avait pas de confiance, il y a eu pendant très longtemps, la CIPA et les occupants étaient en méfiance absolue, quoi. C'est-à-dire que il y avait des discours politiques de défiance totale qui nous faisaient beaucoup de tort. Du coup, à un moment, il y a eu à partir du mois de septembre 2017, donc c'est assez récent, il y a eu la création d'une autre assemblée sur des bases de discussion qui aurait été une reconnaissance mutuelle des positions politiques, mais à partir du fait qu'on reconnaît nos différences, genre toi t'es squatteur, t'habites dans une cabane et je te traite pas de squatteur et de la légitimité que t'as ou pas à squatter, et puis toi t'es éleveur et tu tues des animaux, c'est ton métier pour donner à manger aux gens, l'agriculture conventionnelle aussi. Bon voilà, il y a des gens qui se condamnent les uns les autres pour des motifs qu'on ne voulait plus entendre pour pouvoir discuter ensemble. Donc on crée l'AG d'usage qui se base sur un peu ces trucs dont je vous parle, là, qui sont basés un peu sur les 6 points. Les 6 points pour l'avenir de l'AZAD. Je ne vous fais pas le détail des 6 points, mais en gros, elle s'est construite sur un texte qui est une sorte de charte, qui a un peu volé en éclats, mais qui reste quand même le texte fondateur un peu de cet AG d'usage. Et l'AG d'usage, c'est elle qui a mandaté la délégation. La délégation dont je vous parlais tout à l'heure, qui allait voir la préfecture.
C'est l'organe souverain de...
Voilà. Et c'est une assemblée, ça fonctionne en assemblée. Alors pendant les expulsions, c'était un peu bizarre, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus en soutien, et on leur disait, vous pouvez pas participer à cet AG. Vous pouvez pas prendre parole, vous pouvez assister, mais vous pouvez pas prendre la parole, parce que vous ne connaissez pas assez les uns les autres, et du coup on a refusé. Donc c'était un peu bizarre, ça faisait un peu spectacle. Du coup ça a augmenté la tension. Mais bon ben voilà, l'AG des usages, elle a aussi validé le fait qu'on crée une entité commune qui sera chargée, qui serait ou qui devrait être chargée de la gestion officielle pour signer, paraffer les documents. C'est l'association pour l'avenir commun en blocage, la ACB. Donc cette association qu'on a créée, c'est un paravent de l'Assemblée des usages. Il y a des statuts qui ont été déposés, etc. Mais en gros, elle est contrôlée par une assemblée qui a une tenue régulière.
C'est ce qui doit tenir le stylo, en fait, pour signer un éventuel
contrat de propriété ou de location sur l'ensemble des terres. Et du coup, dans ces organisations, ben, y en a certaines qui voient plus d'intérêt à lutter maintenant que l'aéroport est abandonné. Donc, alors l'ADK, par exemple, elle se retire de la délégation.
C'est le CEPPA.
Ah oui, j'ai dit ADK, CEPPA, pardon. Collectif des élus, doutant de la pertinence du projet d'aéroport. Et ils ne viennent plus aux assemblées. Donc, ils ont un peu quitté la lutte. Et la CIPA donc, se pose la question de sa dissolution. Donc là, c'est bientôt, en fait. Ils ont une réunion à la fin du mois, donc dans deux ou trois jours.
Je crois que c'est demain ou après-demain.
Ouais. Où ils vont, a priori, ils vont acter qu'ils se dissolvent. Mais après, on ne peut pas dire à l'avance. Mais du coup, dans cette association, il y en a quand même plein qui se sentent concernés quand même par l'avenir du territoire. Et donc, moi, j'espère qu'ils vont se réassembler dans une autre structure pour continuer à lutter avec nous.
La COPA. Voilà.
Et COPIN, eux, ils réfléchissent à se mettre en association. Là, tu sais plus que moi.
En fait, COPIN, c'était un collectif. Maintenant, ils veulent se constituer en association. Ils ont montré qu'ils voulaient continuer à soutenir la ZAD. Par exemple, quand il y a eu les fiches, là, l'histoire des 40 fiches déposées, sur chaque fiche, il y avait un parrain qui était paysan, même quand c'était pas un projet agricole. Voilà. Et puis, les naturalistes en lutte, eux, c'est maintenant qu'ils sont très actifs, qu'ils sont très inquiets parce qu'ils voient qu'en fait, c'est loin d'être gagné la préservation de la biodiversité, du territoire, là. Ils ont peur des pratiques agricoles futures. Donc, ils poussent beaucoup à ce qu'il y ait des espaces communs pour discuter de tout ça.
Ouais, et puis ils savent trouver des bons mots pour décrire, pour faire passer des modes de vie qui sont hors des cadres et qui peuvent quand même être défendus par une fiche, pour faire une espèce d'histoire que la préfecture pourrait entendre.
Ouais. Bon, alors ça, du coup, c'est un peu les organes et les outils qu'on a. Ces associations-là, un peu extérieures aux occupants, elles sont en mutation. Au sein des occupants, il y a aussi des grosses tensions. Je vous ai parlé du CNDO. Ça, c'est... c'est... Au sein des occupants, il y a des stratégies, des options politiques qui ne sont pas les mêmes. Et il y a des gens qui se sont retrouvés en groupe, qui préexistaient aux expulsions. Donc le comité de maintien des occupations... On peut dire que c'est un groupe d'affinité, mais de tendance, je sais pas si vous parlez, appelliste. Ils sont sur les options sur une lecture assez marxiste, communiste de ce que doit devenir la ZAD. Ils militent beaucoup pour le commun. Ils veulent qu'il y ait énormément de projets. Et c'est un groupe qui cherche beaucoup à organiser les choses. Ils ont beaucoup organisé les manifestations. Ils sont vraiment beaucoup critiqués dans leur méthode.
Déjà, ils sont très nombreux, quoi. C'est à peu près 40 personnes sur entre 200 et 300 habitants. Ils ont un réseau qui fonctionne.
Ils font plein de réseaux.
Ils s'organisent très bien.
Il y a deux autres groupes politiques au sein des occupants, mais qui recouvrent pas tout le monde. Hein. Mais voilà, il y a deux autres groupes. Il y a un autre groupe qui s'appelle le POMPS.
Pas ouvert, mais pas secret. C'est un peu... ils sont pas créés contre le CMDO, mais... Quand même, ils les titillent un peu, quoi, parce que ils sont pas ouverts, voilà, c'est quand même. On s'en rend pas comme ça dans le groupe, mais ils sont moins, disons, machiavéliques que le CNDO. Ils préparent moins les réunions en douce avec des stratégies de. Ah, tiens, tu dis ça, moi je dis ça. En fait, ils avaient très bien prévu qu'ils veulent influer la réunion dans ce sens-là, du coup.
Ils se disent anti-autoritaires.
Voilà, c'est ouais.
C'est leur leitmotiv, quoi. Ils disent ça. Il y a un autre groupe qui s'appelle le Chips.
Voilà. Fine rondelle de patates frites et salées.
C'est pas un acronyme, quoi. Ça s'appelle le Chips. Et alors, ce groupe-là, quand il a vu qu'il y avait des bisbites énormes entre le Pomps et le CMDO, il a dit non, mais il faut qu'on s'organise pour que. Des fois, quand même, ce groupe-là, il y a des bonnes idées, et puis ce groupe-là, et tout ça, il y a des bonnes idées. Donc. Nous, on va s'employer à faciliter les relations entre ces groupes. Et puis sur Azad aussi, ils ont l'envie qu'il y a des choses qui se maintiennent. Enfin, ils s'organisent. Ils se sont dit, bon, on peut pas laisser les autres s'organiser. Nous aussi, on va s'organiser. Tu veux pas rejoindre le groupe, tu veux pas. Enfin, bref, voilà, ça crée un troisième groupe politique.
Voilà, et après, il y a une énorme partie des gens qui sont dans rien du tout et qui... Bon, qui s'organisent plus ou moins. Il y en a qui refusent toute forme d'organisation, qui sont assez anarchistes, individualistes, qui trouvent que ben, dès qu'en fait on se met en groupe, il y a des jeux de pouvoir et tous les jeux de pouvoir sont à bannir.
Ouais, oui, 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 ben, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vit, nous, il y a ça. Il y a d'autres groupes qui ont pu exister. Mais voilà, en tout cas, politiquement, aujourd'hui, il y a des grosses tensions entre ces groupes. Et, des fois, il y a des gens qui quittent la ZAD parce que ça, ça ne devrait pas exister sur ce qu'on avait pensé que deviendrait la ZAD.
Voilà, et il faut qu'on parle aussi des nouveaux adversaires.
Ah ouais, ouais.
On a, parce que du coup, il y a, avec cette, la création de cette délégation et le comité de pilotage, et ben après qu'on ait créé l'association pour l'avenir commun dans le bocage, et ben il y a des agriculteurs qui avaient vendu leurs terres pour le projet d'aéroport et qui continuaient à les cultiver modulo une convention d'occupation précaire, qui maintenant veulent les récupérer totalement. Donc ils se sont mis en association, ça s'appelle la Mélaza. Association pour le maintien des exploitations légales dans la ZAD. Et donc eux, ils ont été invités au comité de pilotage. Et ben, donc du coup, ça regroupe pas mal d'agriculteurs avec lesquels on est en conflit.
Ouais. On pourra vous en reparler. Comme autre adversaire, on a le conseil départemental. Alors le conseil départemental, c'était le véritable promoteur du projet d'aéroport. Il avait acheté les terres avant la déclaration d'utilité publique qui justifiait l'expropriation par l'État. Il dit, c'est moi l'ancien propriétaire, j'ai le droit, je peux redevenir propriétaire, et je peux utiliser mon pouvoir de nuisance sur l'avenir de la ZAD, quoi. Enfin, voilà. Donc ils sont en train de prendre des accords politiques avec la préfecture, parce que finalement, juridiquement, c'est peut-être pas complètement cadré. Voilà. En tout cas, ils veulent redevenir des propriétaires de leurs terres. C'est la moitié de la surface de la ZAD, c'est-à-dire 800 hectares de terre sur les 1600 hectares de terre de la ZAD. Et c'est quasiment que des terres qui sont occupées par le mouvement. Nous, le mouvement, il occupe 200... Enfin, on occupe environ 310 hectares. On a été balayé sur une partie, mais voilà. Enfin, on est sur 200-300 hectares d'occupation, et c'est quasiment tout le temps le conseil général. Donc, on ne sait pas trop comment on peut engager des choses avec eux. Ça reste... pour nous, ça reste un adversaire, quoi. Enfin, c'est un adversaire, en fait. Il y a d'autres gens, je sais pas.
Ouais, il y a quelques personnes qui étaient dans la lutte contre l'aéroport, ou en tout cas qui avaient des positionnements contre l'aéroport, comme le maire de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui maintenant est anti-zadiste fortement. Quoi. C'est vraiment pas du tout un allié. Il est contre la ZAD.
Il avait signé le permis de démolir de certaines. Pendant la première vague d'expulsion, il avait signé le permis de démolir des planchettes. Enfin voilà, la préfecture était militante. Il a dit oui, ok, je signe là en bas.
Et puis maintenant, il y a le PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, qui est en révision du fait que la ZAD ne va pas devenir un aéroport. Il y a une grosse zone qui est en requalification, tout à fait. Et du coup, ben, ils poussent pour faire une zone où, en fait, l'habitat est impossible. Quoi.
Ou en tout cas, il faudrait qu'il n'y ait que de l'activité agricole.
Voilà, c'est ça, la vision de la campagne purement fonctionnelle, nourricière de la ville, quoi, sans...
Et professionnelle.
Et professionnelle. Mmh. Ouais,
et du coup, ouais, Jean-Paul Nault, c'est un peu... C'est une arme notre même demande. On a l'impression qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues. Et les maires, en fait, autour... attisent beaucoup des relents un peu xénophobes. Genre, les zadistes, ils sont encore là? Ils n'ont pas compris qu'il n'y avait plus d'aéroport? Voilà, il y a eu des pétitions des habitants aussi de Notre-Dame-des-Landes qu'on dit, bon voilà, on a marre des routes bloquées. Nous, on est en train de se faire expulser. Et les habitants, ils disent, nous, notre problème, c'est les routes bloquées. C'est pas... vous voyez, c'est chacun sa merde. Et Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a eu des surprises. On a eu Julien Durand, qui était porte-parole de la CIPA, qui, pendant la première semaine d'expulsion, fait un texte horrible sur ce que c'est sa vision de la ZAD, que vraiment on est des bras cassés, etc. Il nous chie dans les bottes.
Il a été destitué de la CIPA.
Ouais, il a perdu son rôle de porte-parole avec ça. Donc la CIPA a réagi, elle a arrêté de laisser parler, elle a continué à nous soutenir. Mais lui, qu'est-ce qu'il lui prend, quoi? Alors que... Ben voilà, c'était... Bon.
Il a eu sa victoire, et maintenant...
Il y a Françoise Vercher, qui était une élue du CEPPA, qui, avec, à un moment, elle parlait de la ZAD tout le temps en bien. Tout le temps. Et là, elle écrit un texte en disant « Je vous ai tout le temps parlé en bien de la ZAD, mais en vrai... » Enfin, je vous invite à relire son texte. Nous, ça nous a crié à la lecture, parce qu'elle disait des choses de mauvaise foi. Et c'était très surprenant, parce que ça avait tout le temps été quelqu'un d'assez précis, quand même, dans l'argumentaire de construction du projet d'aéroport.
Et là, elle se met à faire... Rosée,
pardon ?
Elle n'était pas de Rosée.
Ouais, du Sud-Loire.
Elle était de Sud-Loire.
Elle avait pris ses distances. Du coup, bon, grosse surprise. C'est pas vraiment une adverse. Enfin, elle nous a fait du tort. Bon, on veut pas... Voilà.
Maintenant, en tout cas, elle ne veut plus entendre parler de ça.
Ouais. On fera plus rien avec elle. Bon,
voilà.
Dans ce qu'on, dans, enfin voilà, vous avez un peu une idée de la vie politique, des acteurs, tout ça. Et en fait, du coup, bon, on se retrouve là, nous tous. Et il y a des enjeux, quoi, en face de nous là. On a beaucoup à faire. En fait, on est au boulot. Enfin, on est là parce que pour nous, ça fait partie des choses qui font que on a besoin de vous convaincre de plein la nécessité de saisir ce tas d'enjeux, quoi. Et là, on peut décrire, je sais pas, trois grands enjeux. À la suite des fiches, là, on a créé un bureau d'autodéfense administrative. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était la CIPA qui faisait toute la défense juridique, qui attaquait les déclarations d'utilité publique. Et nous, les occupants sur la ZAD, on se mêlait pas de juridique, quoi. Pour l'anti-répression policière, pour le reste, on ne s'intéressait pas à ça. Et là, maintenant, on s'est dit, bah, la CIPA, elle dissoudre. Il faut qu'on maîtrise cet outil-là, quoi. Et donc, le bureau d'autodéfense administrative, il réfléchit à des stratégies pour ne pas se faire bouffer par la régularisation agricole paysanne, la agriculture, pour essayer d'éviter l'individualisation des projets, pour essayer de faire passer par des voies juridiques, vous voyez, tout le temps. Enfin, quelle voie juridique on peut utiliser, et du coup, en s'entourant d'un tas de gens qui font ça partout ailleurs en France, je connais bien. Du coup, par exemple, la semaine prochaine, la première semaine de juillet, il y a une semaine de discussion sur l'habitat, sur comment est-ce qu'on peut se tripatouiller sur le puits intercommunal, ce qu'on peut faire avec l'habitat léger, machin. Sur les constitutions de trucs agricoles qui seraient pas, qui n'auraient pas des visées économiques, comment est-ce que aussi on pourrait faire pour acheter les terres, parce qu'en fait on s'est dit que peut-être on pourrait devenir propriétaire des terres si on peut avoir des problèmes. Du coup, comment on fait pour avoir une propriété collective où on ne commence pas à tous se tirer la bourre, parce que c'est difficile, la propriété collective. Et donc là, on pense à constituer un fonds de dotation qui est une sorte de fondation. Ça fonctionne un peu comme une fondation. On met de l'argent dedans, et c'est l'association, l'AACB, là, l'Association pour l'avenir commun du bocage, qui serait le signataire, et l'AG des usages qui gérerait ça. Voilà, c'est inaliénable, ce qui fait que les terres, si on arrive à les acheter, elles deviendraient forcément collectives, et elles ne peuvent pas retourner dans le giron du projet d'une personne ou d'un autre, quoi. On séparerait la propriété de l'usage. Mais pour ça, il faut que le Conseil général ou l'État veulent bien nous les vendre, donc on trouve un moyen d'acheter. En tout cas, on pense constituer un fonds de dotation pour appeler des sommes très importantes, plusieurs millions d'euros en fait, pour dire qu'on est en capacité d'acheter des terres. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas l'intention de le faire, et nous on dit qu'on a l'intention de le faire. Et donc on va lever des fonds, et de façon très visible, et on va essayer d'en parler beaucoup, quoi. Quand vous allez entendre parler de ça, peut-être ça vous donnera une idée. Ça, c'est le bureau d'autodéfense administrative. C'est aussi pour ne pas se faire bouffer par la MSA, parce qu'il y a des gens qui ont mis leur nom là sur des fiches, mais ils n'en ont rien à faire, en fait, de l'agriculture. Et du coup, comment est-ce qu'ils vont payer les assurances, etc. Comment ils vont se faire bouffer par l'agriculture? Du coup, on essaye de tout faire ça ensemble. On réfléchit et on laisse pas... En fait, voilà, les assurances, elles sont payées collectivement. Alors, on va aller à l'MSA collectivement. Plein de choses comme ça. Ça, c'est dans les enjeux à venir, quoi.
Ouais.
Au niveau administratif.
Ouais. Ben, la semaine d'après, du coup, il y a le ZAD en vie. En fait, donc du 7 au 15 juillet.
C'est ça.
Habituellement, c'est la CIPA qui organise le festival de l'été sur la ZAD. Et maintenant, du coup, c'est le mouvement d'occupation qui s'en occupe cette année. Donc, on va essayer de mobiliser pas mal de gens. On va essayer, ce serait bien. Et du coup, c'est une semaine... du 7 au 8, du 7 et 8, les deux week-ends, 7 et 8 et 14 et 15, il y aura des concerts. Et le reste de la semaine, ce sera des chantiers, construction, potager... Il y a plein de gens qui proposent des activités, donc tissage, théâtre, voilà, donc avec un camping et tout ce qui est prévu pour accueillir beaucoup de gens.
Et c'est un camp autogéré quand même, c'est-à-dire on met en place ensemble les structures, on les gère ensemble, ça fonctionne par assemblée. Et on attend aussi, c'est un moment qu'on veut festif, politique, c'est une façon pour nous de se remettre de ce qu'on a vécu avant. Et pour la petite histoire, par exemple, on a dit au CMDO qu'on ne voulait pas qu'ils participent à l'organisation de ce moment-là.
Voilà, pour laisser de la place aux autres, quoi, qui laissent tout le temps faire la machine de guerre, qui a réponse à tout, et qui ne laissent pas d'espace disponible de parole dans les réunions. Donc, on est divers, il y a de la diversité à la ZAD, et on la préserve.
Et puis on va faire une fête assez inventive, quoi. C'est un peu aussi un moment de marquer notre capacité d'inventer des formes festives où on se passe de services de sécurité, où on veille les uns sur les autres, mais vous voyez, toutes ces normes là, les services de police qui devraient être à côté, etc., on s'en passe, quoi. On organise le festival sur des terres qui sont conflictuelles aussi. C'est-à-dire, c'est pas des terres, on va aussi squatter à nouveau des terres là où on n'a pas possibilité d'être. Et d'ailleurs, les terres conflictuelles, c'est un peu le gros enjeu là du moment aussi. Le 2 juillet, par exemple, on a un rendez-vous en préfecture avec la MELASA. En fait, la préfecture joue la médiation avec les paysans qui se présentent comme des légalistes, qui sont en fait des gros arnaqueurs. L'enjeu de la... des prix... Enfin, vous voyez... La préfecture, elle a légalisé des projets, là, avec les 40 fiches. Mais je vous ai dit que moi, j'étais maraîcher, je faisais... ça fait 2 ans que je suis déclaré. Par exemple, moi, mon activité, elle a dit non, c'est pas... c'est pas... Ça, je vais pas signer une com, je vais pas valider. Elle nous a juste fait un courrier à la Nouvelle Verte. On a présenté 3 fiches. Des abeilles, mon activité de maraîcher. Elle a dit non, c'est pas de l'agriculture comme on veut. Puis en plus, il y a un problème avec cette conflictualité des terres, comme si les autres n'étaient pas en train de squatter. Enfin, vous voyez, ils ont fait du tri. D'ailleurs, ils ont donc à la Nouvelle Verte, on a un conflit ouvert avec un GAEC qui s'appelle le GAEC de Chavagne, à qui on, en fait, les terres que nous on cultive, ils les réclament. Ils s'étaient fait indemniser, ils avaient vendu les terres, ils continuent à les exploiter de façon gratuite, ils continuent à toucher la PAC. C'est nous qui les On avait déjà d'abord pris un champ d'un hectare et demi où moi je fais le maraîchage, et puis après cet automne on avait pris 7 hectares en disant on en a besoin pour faire les activités agricoles, parce que de toute façon à l'avenir on aura plein de pratiques paysannes là, et agricoles sur 1600 hectares de la ZAD, et tous les paysans qui ont touché les indemnités, qui n'ont pas participé à la lutte, en fait, peut-être au cas par cas on fera pas tous de la même façon, mais à terme c'est nous qui gérerons tout ça. Bon, mais la préfecture elle a pas du tout validé, elle a dit ça c'est des terres conflictuelles. Elle a dit aussi à Willem et Florian qui font de l'élevage laitier à Saint-Jean-du-Tertre, et puis à Mika qui est paysan boulanger, pareil, en fait ils ont c'est 15 ou 30 hectares de terres qui sont dites conflictuelles. Ils ont prise à un paysan qui a déjà c'est une ferme de 300 hectares et qui continuait à avoir du coup là ils ont pris 30 hectares, l'idée c'était de faire une ferme de 60 hectares à terme. Bon, c'est pas réglé. Et puis à l'agré, qui est là en fait, à côté du Gourbi, là, Il y a l'ancien propriétaire qui veut redevenir propriétaire des terres par le jeu de la rétrocession légale. Et à l'agré, on a plein d'activités dans cette ferme. Donc on a
la musique,
un studio de musique, on a fait des espaces de stockage de logistique potentiels vraiment importants. Il y a du monde qui habite sur place, rien que ça. Donc il y a quelqu'un qui a décidé dans le jeu des fiches là pour présenter un projet d'escargot, d'élevage d'escargots sur 3 hectares. Et puis, à côté il y a une ferme auberge. Voilà. En fait les projets ils étaient plus ou moins fictifs, vous voyez les projets qu'on a présentés. Mais des fois les gens ils se prennent vraiment au jeu, c'est-à-dire qu'on a vraiment des escargots maintenant à cet endroit-là. Et on a vraiment une ferme auberge. Mais sauf que c'est pas exactement que la personne qui dit qu'il le fait. Derrière, on le fait aussi. Mais des fois, c'est complètement fictif. Enfin, en fait, ou alors. Enfin, c'est pas grave, quoi. Mais l'enjeu à la Noël Verte, comme sur tous ces endroits-là, là, maintenant, ça va jouer bientôt. Et c'est très conflictuel, puisque là, on se retrouve avec la corporation paysanne qui est capable de faire des mouvements un peu étonnants, quoi. Voilà, c'est un peu. C'est un peu ce qu'on voulait vous présenter comme les enjeux du moment.
Bon.
Ouais. Tu voulais conclure.
L'enjeu, comme j'ai dit au début, c'est de continuer à vivre. Enfin, on ne veut pas développer quelque chose de nouveau, quoi. Enfin, la ZAD, elle existe déjà. Il s'agit de maintenir son existence, quoi.
Vous vous demandiez, du coup, la question ce soir, c'était la ZAD, où vas-tu ?
Ah oui. nous, on y retourne. Hein.
Bon, merci. Donc là s'ouvre la période petite discussion barre complice des documents. Et puis après, on reprend d'ici un quart d'heure, oui, c'est-à-dire on va dire 10h05.
C'est pas mal.
Voilà. Et donc on reprend pour le débat, les questions à poser, les projets, la ZAD finalement.
Là, on va boire un coup.
Oui. Voilà. Ouais. Voilà.